Marion Dufour, vous nous avez dit que le Christ était vivant, qu'il était agissant dans l'histoire des hommes. Mais je voudrais que vous précisiez exactement le sens de cette action dans l'histoire des hommes. Est-ce que finalement, n'est-ce pas, des hommes qui sont morts, des grands hommes, comme disons Karl Marx par exemple, ne sont-ils pas eux aussi agissants dans l'histoire des hommes? Est-ce que c'est de cette façon-là que le Christ agit?
Certes pas. Il y a en effet différentes manières d'être présent à l'histoire des hommes. Il y a celle de Mozart. Quand j'écoute une symphonie de Mozart, je suis présent à lui-même. César ou Napoléon ou Charles de Gaulle ou Marx sont présents à l'histoire des hommes, mais ils sont présents par le souvenir, par l'activité des hommes qui, ayant été marqués par leurs œuvres, se souviennent de lui et donc, en effet, il ne meurt pas tout entier, ça c'est sûr. Mais ce qui est marqué par la résurrection de Jésus, c'est que un individu, une personne, est là en tant que personne, et non pas simplement en tant qu'ayant fait des œuvres, ayant fait quelque chose jadis. Qu'est-ce que c'est que cette personnalité? C'est là le problème. Est-ce que cet homme, comment il agit? Je crois que là, il faudrait comprendre, d'après l'anthropologie biblique, qu'est-ce que c'est que le rapport entre des hommes? Je crois que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et que si Jésus a réellement dit que celui qui bâtit sur ses paroles bâtit sur le roc, si vraiment tout homme dépend de Jésus, eh bien Jésus est présent à tout homme. Parce que, comme je le pense, pendant notre vie terrestre, nous nous ouvrons progressivement par l'amour à la totalité des hommes et de Dieu. Jésus, lui, s'est ouvert pleinement. Il a été totalement ouvert. Nous, nous serons ouverts dans une certaine mesure. Et nous serons à jamais ce que nous avons fait. Nous avons accueilli l'amour, nous l'avons donné, et c'est cela ce qui a constitué notre personnalité. Alors, Jésus est, par sa nature même, présent à tous les hommes. Parce que il est celui qui a été parfaitement accueillant à Dieu, à l'amour.
Et cela, il l'est parce qu'il est ressuscité, ou il l'est justement à cause de cette...
Non, il est ressuscité à cause de ça.
Il est ressuscité à cause de ça. Alors, on est obligé quand même de poser des questions, enfin, des questions qu'on entend tous les jours. Si l'essentiel, justement, c'est cet amour, avait-il besoin de mourir pour cet amour? Si il avait besoin de mourir, est-ce que cette mort n'est qu'un... Au fond, qu'une... J'oserais presque dire une comédie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un simulacre? Les questions sont quand même de plus en plus nombreuses, finalement.
Oui. Est-ce que Jésus pouvait ne pas mourir? Pouvait-il faire autrement? Là, je laisse cette question qui, pour moi, est insoluble. C'est un fait que dans le dessein de Dieu, la mort est le point culminant d'une existence qui veut être à la fois fidèle à Dieu et aux hommes. La mort ne serait peut-être pas là si le monde n'était pas un monde de péché. Mais puisque nous sommes dans un monde de péché, la mort étant la sanction de ce péché, il était, on peut dire, nécessaire, comme dit saint Luc, que le Christ passe par la mort. Alors, vous me direz, mais s'il était Dieu, est-ce qu'il n'a pas fait semblant de mourir puisqu'il est ressuscité? Alors là, je ne sais pas si c'est le lieu de la raconter, une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'avais un de mes élèves, un jésuite qui s'appelle le père Magnan, et dont la maman était catéchiste à Marseille. Elle a raconté l'histoire du douloureux Jésus. Jésus, vous savez, les enfants... Hein, Jésus était douloureusement, il était sur la croix. Hein. Il y avait le bon larron, il y avait le mauvais larron, et le mauvais larron disait des choses pique-pendre, je ne veux pas vous le répéter. Le bon larron, au contraire, écoute Jésus, hé, nous, c'est bien fait pour nous, mais toi, quand tu seras dans le paradis, c'est tout de suite de moi, hé, Jésus. Alors Jésus, et les enfants, qu'est-ce qu'il disait Jésus? Silence. Madame Magnan recommence. Alors les enfants, alors un petit peu, alors, Olive, alors, qu'est-ce qu'il dit? Madame, moi je m'en fous, dans 3 jours je ressuscite.
Ouais.
Eh bien, moi je dirais que nous sommes presque tous comme ça. Parce qu'à partir du moment où l'on conçoit Jésus-Christ comme une sorte de Dieu encapsulé dans un bout de chair humaine, on ne prend pas l'humanité de Jésus au sérieux. Il m'est arrivé de vouloir consoler des gens... Et en évoquant Gethsémani, réponse, mais lui, il était Dieu. Autrement dit, on s'imagine que Jésus avait un soupirail pour respirer de temps en temps. Il n'était pas homme. Jésus a affronté la mort, réellement. N'oublions pas tout de même que la dernière parole de Jésus d'après Matthieu et Marc, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ne me dites pas que c'est le commencement d'une citation de psaume. C'est une invention de quelques-uns, ça.
Mais alors, s'il est vraiment homme, est-ce qu'il est vraiment Dieu ? Est-ce que l'historien... n'est-ce pas, va aller jusqu'à dire, nous touchons l'homme, mais nous sommes obligés de nous arrêter.
On ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il est Dieu. On ne peut pas. Mais quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il me semble que Jésus dit la parole la plus extraordinaire. Jésus n'a pas triché avec la mort. Il l'a prise au sérieux. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a fait joujou. Et notez bien que ça veut dire, pourquoi m'as-tu abandonné à la mort. Tu étais mon Dieu fidèle. Jésus n'a pas voulu mourir. À Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit ? Que ma volonté se fasse et non pas la tienne. Que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Jésus a dit, mon Dieu, il n'a pas coupé les relations. Et c'est ça la foi, c'est ça la fidélité. Alors qu'on est abandonné de tous, Jésus a été livré à l'extrême de la conséquence du péché, qui est la mort, qui est la séparation d'avec la vie.
Donc, une mort réelle, une mort qui n'est pas un simulacre.
Et oui, mourir n'est pas du tout la séparation de l'âme et du corps, comme on dit trop souvent. Mourir, c'est cesser de vivre. Cesser de vivre, c'est cesser d'être en relation avec Dieu. Et alors, c'est le paradoxe que de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai comme la sensation de te quitter.
Il se sentait, au fond, lui aussi abandonné par Dieu.
M'as-tu abandonné à la mort ?
M'as-tu abandonné à la mort ?
Mais la mort, c'est proprement... car il me semble que... mourir, c'est pas un paradoxe, c'est pas une lapalissade. Mourir, c'est cesser de vivre. C'est-à-dire que si l'homme est vraiment un être suspendu à Dieu par son souffle, si le souffle est coupé, il vit plus.
Il ne vit plus. Et il n'y a plus de Dieu aussi, si on veut dire, d'une certaine façon.
Ah, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il faut prendre Jésus au sérieux dans ça. Il m'arrive quelquefois de poser la question suivante dans les sessions. Je dis, bien, si Jésus était Dieu, alors il savait tout. Hein, il savait tout. Alors quand il a choisi Judas, il l'a choisi comme apôtre ou comme traître ? Vous êtes gêné, hein ?
Mais oui, c'est embêtant.
C'est embêtant, je comprends. Si vous me répondez comme apôtre, il ne le savait
pas. Trompé.
Et si comme traître, entre guillemets, c'est un salaud. Ça ne se fait pas, ça.
Oui, on ne choisit pas quelqu'un qui va ça. Alors c'est justement, donc vous arrivez finalement, enfin je reviens toujours à cette histoire, l'historien arrive à cerner un homme absolument extraordinaire. Ouais. Et c'est la foi tout à coup qui pose autre
chose. C'est ça. Et moi, comme historien, je dois mettre les hommes en face de cette question qui est posée. Car quand je dis une question, c'est énorme, vous savez. C'est la question qui me dérange. Je ne peux pas me satisfaire d'une réponse en disant Jésus est un prophète, Jésus est un grand homme, Jésus est comme, mettons, je ne sais pas, Karl Marx, il a fait laisser un testament.
Che Guevara, comme on l'a...
Il a laissé un grand testament. Ouais. Non, ça reste comme question.
Ouais. Alors, revenons justement à cette histoire de la résurrection. On a dit, n'est-ce pas, si Jésus n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Il n'y a pas de... Ouais. Alors, qu'est-ce qui est si important dans cette résurrection du Christ que finalement, on parle d'une vanité de la foi si le Christ n'est pas ressuscité? Est-ce que c'est pas l'amour, comme on le dit actuellement, enfin, oui. On entend ça tous les jours. Ce qui est important dans la religion, c'est l'amour.
D'accord. Oui.
Alors, pourquoi la résurrection, alors ? Parce que l'amour que le Christ a manifesté dans toute sa vie ne suffisait pas.
Je suis porté à dire que ce qui est sauvé par la résurrection, c'est la valeur de la personne humaine. Quand il m'arrive de discuter avec des marxistes, je constate qu'ils ont sans doute la même orientation de salut de l'humanité. Mais ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la manière de rendre cohérente, de faire coordonner le salut de l'individu ou de la personne humaine et de la collectivité. Alors, parce que nous avons tellement embourgeoisé notre religion qu'on a fait des petites affaires individuelles, on méconnaît la dimension collective. Mais précisément, je dirais que à l'inverse, il nous faut sauvegarder la valeur de la personne humaine, et Jésus, comme individu, est sauvé. Et c'est parce qu'un individu a traversé la mort que tous les individus traverseront la mort.
Mais c'est là que je vous attendais, justement. Tous les individus, ça veut dire que moi aussi, vraiment, je vais ressusciter.
Et je le pense.
Et ça va vouloir dire quoi pour moi ?
Ça veut dire que vous serez ouvert Parce que pour moi, le corps n'est pas cet amas de chair. Pour moi, mon corps s'étend jusqu'aux étoiles. Pour moi, mon corps, c'est l'univers mis à ma disposition pour pouvoir m'exprimer. Eh bien, sinon, je ne pourrais pas parler du corps spirituel dont parle saint Paul. Le corps ne peut pas être défini par la matière. Le corps peut être spirituel. Eh bien, ce corps, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire, un corps parfaitement translucide, transparent. Quand je vous parle, j'utilise une matière vocale. Et cette matière vocale est trait d'union avec vous. Mais comme ce sont des mots que j'utilise, qui ont une histoire, et qui n'est pas chez vous la même, c'est un obstacle.
C'est ça.
Eh bien, je dirais qu'à la mort, il y aura une présence aux êtres qui sera strictement translucide, parce qu'il n'y aura plus d'obstacle. Dans le corps du Christ. J'ai mis ça dans un article une fois, nous réussissons tous avec notre corps, virgule, c'est-à-dire le corps unique du Christ.
Alors c'est donc dire que vous et moi, un jour, n'est-ce pas, nous allons nous rencontrer dans une transparence totale.
Oui, dans un même corps.
Dans un même corps.
Et notre individualité est sauvegardée non pas par le corps, mais par notre histoire. Vous êtes à jamais ce que vous êtes, et moi jamais. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas mon corps qui me sépare de vous.
C'est l'histoire.
C'est l'histoire, c'est l'histoire. Ma personne, c'est ma... ce que j'ai constitué pendant mon histoire terrestre.
Et ça, vous l'affirmez donc, encore une fois, non plus comme homme de science,
ah oui.
Mais comme homme de foi, comme croyant.
C'est une des réponses que donne saint Paul au mystère de l'après-mort.
Alors, je demanderai maintenant aux croyants, nous avons interrogé l'historien, je demanderai aux croyants, je dirais à l'homme d'Église, pour vous, qui est Jésus-Christ ?
Jésus-Christ est celui qui me met en relation avec Dieu. C'est celui en qui je trouve la présence à Dieu et à mes frères. Ça a été exprimé par exemple par saint Jean. Je suis la voie, la vérité et la vie. Le chemin. Le véritable chemin qui mène à la vie. La vie étant Dieu lui-même. Alors, pour moi, Jésus-Christ, c'est celui en qui et par qui. Et je me sens dépendant de lui pleinement. C'est ce qui fait que je suis chrétien et non pas simplement déiste. C'est là que c'est un paradoxe très difficile à accepter. Car enfin, c'est un grand paradoxe que de dire que tel homme, cet homme est l'homme par excellence et celui en qui et par qui, ça ne va pas du point de vue de la pensée rationnelle.
Et cela, c'est la réponse que vous donnez à cette question éternelle, perpétuelle, qui reste toujours comme question, qui est Jésus-Christ.
C'est ça. Seulement alors, j'ajouterais, il m'est arrivé dans des discussions de dire, ma foi, finalement, c'est que j'ai l'expérience d'avoir été rencontré par Dieu, d'être aimé par Dieu, d'être aimé par quelqu'un qui est au-delà de moi-même.
Et cette rencontre, Père Léon Dufour, s'est faite avant que vous deveniez exégète.
Oui. C'est-à-dire que l'exégèse, quand j'ai fait mes études de théologie, j'étais plutôt un mauvais garçon, quoi. C'est-à-dire, posant des questions un peu ennuyeuses, toujours. J'ai ennuyé mes professeurs, je me suis fait coller aux examens. Mais ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est certain, c'est que j'ai mis à la question, je distingue bien mettre à la question et mettre en question. C'est-à-dire, j'ai questionné ma foi jusqu'au dernier point. Et alors, à ce moment-là, je me suis aperçu que ça résistait, il y avait quelque chose qui tenait le coup, et je me suis senti profondément libre. Libre. Je ne tiens à rien, si vous voulez, sinon à Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, l'Église qui est là en tant que... Mais vous savez, c'est pas facile de croire à l'Église, hein, parce que c'est le père de Lubac qui me disait un jour, la Trinité, c'est extrêmement simple, ça, c'est pas compliqué du tout. Jésus-Christ, c'est déjà plus difficile parce qu'il y a un petit peu de chair qui s'ajoute au mystère. Quant à l'Église, il y a le péché en plus. Alors là, ça devient difficile.
Mais c'est vrai que vous nous disiez, Père Léon Dufour, vous nous racontiez comment vous êtes devenu exégète. Je pense que c'est important pour comprendre le sens de tout ce que vous nous avez dit.
Vous savez, je ne vais pas vous raconter mon histoire. Moi, je n'ai pas du tout, je ne suis pas né exégète. Je sais que mes étudiants, quelquefois, s'imaginent que j'ai été créé et mis au monde pour être exégète, ayant écrit des bouquins, évidemment, alors on dit, il est fait pour ça. Et pas du tout. Moi, j'ai pensé à partir en Chine, parce que, et en plus, comme je suis montagnard, je pensais aller du côté de l'Himalaya pour pouvoir apporter la joie d'exister au lama du Tibet, voilà. Alors, il s'est trouvé que je me suis trompé de province, des jésuites, je suis allé dans la mauvaise province pour aller en Chine, que j'ai tombé malade, etc. Et puis, un beau jour, en troisième année de théologie, j'avais déjà 10 ou 12 ans de vie religieuse, le père Bonsirvin m'a demandé « Est-ce que vous accepteriez de prendre ma succession ?» Bon, j'ai mis 3 mois avant de répondre oui. Et puis voilà, alors, je me suis mis à travailler. Mais c'est sûr que j'avais toujours du goût pour approfondir ma foi. J'ai un souci d'être responsable, parce que ce qui est premier pour moi, c'est la liberté. Si je ne suis pas libre, et celui qui m'a engagé, m'a dit de le faire, me disait, ce que je vous demande, c'est de ne pas tenir à votre place.
Qu'est-ce
de
que
ne pas tenir à votre place, de ne pas biaiser avec quoi que ce soit, pour garder votre place, votre statut, votre professeur. Alors, il est évident que quand on est libre, on touche des sujets difficiles.
Et aujourd'hui, vous... Vous êtes un homme de science reconnu, vous avez publié de nombreux volumes, mais vous ne voulez pas rester un homme de science, précisément. Vous voulez toujours rester un homme d'église,
et oui,
toujours être un missionnaire, c'est ce qu'on
comprends. Oui, c'est vrai, ça, oui. Et puis je crois que, d'ailleurs, ça permet de poser des problèmes plus vrais. Des problèmes plus vrais parce que je crois qu'une des grandes tentations de l'intellectuel, c'est de s'enfermer dans son cabinet et de travailler avec des dictionnaires seulement. Pour moi, il faut que j'ai les pieds dans la boue, quoi, que je sente les gens.
Alors vous sortez, vous voyagez.
Oui, je voyage, oui.
Vous êtes allé au Japon.
Oui, oui.
Vous êtes allé en Amérique du Sud récemment.
Oui, parce que pour moi, c'était le problème de la pauvreté. Je voulais revivre un peu avec des gens dans... Je sais bien qu'on m'a dit, mais pourquoi ne pas aller dans la banlieue de Paris ? Eh bien non, parce que je crois qu'il y a un péché collectif là-bas qui a lieu et qui est terrible. Pérou, Mexique, quand je vois ça près, ça m'a bouleversé. Et ça m'a permis de retrouver le sens d'un certain nombre de choses, comme tout à l'heure, je sais pas, l'autre jour, je vous parlais de la question de résurrection, de royaume de Dieu et pauvreté. Pour moi, c'est là que j'ai compris ça. Dieu est roi, ça veut dire qu'il s'occupe des pauvres. Il s'occupe de la justice à remettre dans son royaume en dépit des grands. Alors, il y a là un lien qui n'est pas assez marqué par les exégètes. C'est là que je crois aussi. Au Japon, j'ai compris d'autres choses, c'est le problème de la symbolique, le problème de... Nous sommes tristement européens. Je veux dire que nous avons européanisé le message.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Nous avons mis dans des formulations latines ou grecques même, ce qui est proprement sémitique.
Est-ce que c'était pas normal ?
C'est normal. Il faut continuer. Et je dis, alors, faisons-le africain maintenant.
Mm.
Seulement, pour pouvoir le faire africain, il faut le dépouiller de ce qu'il y a de latin. Si je veux être indien, il faut que je commence par ne pas obliger, comme ça m'est arrivé dans la montagne du Vietnam avec un missionnaire qui, lui, me disait, c'est extraordinaire comment ils sont de plein pied avec la Bible. Mais alors, ce qui m'ennuie, disait le missionnaire, quand je passe au catéchisme, je leur impose l'histoire de l'âme et du corps et tout ça. Autrement dit, leur imposer une anthropologie grecque dont ils n'avaient que faire.
Alors donc, pour vous, le travail actuellement que vous continuez à faire, c'est un travail de dépouillement. Un travail de dépouillement.
Oui, par exemple, maintenant, moi j'ai un livre qui va sortir bientôt sur les miracles, par exemple. Les miracles de Jésus. Parce que c'est un des sujets qui a été pris dans un congrès. On ne croit plus aux miracles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou le prochain travail que je fais en ce moment, c'est sur le repas eucharistique. Et là, alors, ça m'a été pour moi une découverte, parce que je suis convaincu que s'il y a une crise actuelle, c'est la crise du culte. On en voit promener le culte, parce qu'il y a eu un abus dans le domaine cultuel. Alors, il s'agit de le situer. Et ma découverte a été, mais je le dis en deux mots, je ne sais pas si ça vous intéresse, c'est... qu'il y a deux traditions sur le dernier repas de Jésus. Il y a une tradition qui est cultuelle, c'est la classique, et une tradition qui est testamentaire.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les discours d'adieu. C'est le dernier repas au cours duquel un homme qui va mourir donne des recommandations à ses enfants. Alors, il y a deux manières d'entendre le dernier message de Jésus. Une manière cultuelle, qui est l'Eucharistie, et une manière proprement personnelle, qui est celle des discours d'adieu. Et c'est pourquoi Saint Jean n'a rien de cultuel.
C'est un discours testamentaire, c'est le discours d'un homme qui va mourir.
Il n'a pas de cultuel. Mmh. Il l'a fait volontairement.
Mais en quoi justement ça influence notre compréhension de la crise actuelle?
Quand j'en ai parlé par exemple avec des prêtres ouvriers, ils sentaient mieux le sens même de ce qu'ils vivaient. Je ne crois pas qu'on soit obligé de passer toujours, attendez, comprenez-moi bien, toujours par le culte pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ.
Mmh. Oui, c'est
je ne pense pas que l'Eucharistie soit le sommet, c'est le cœur, mais ce n'est pas le sommet de la vie chrétienne. C'est-à-dire, l'Eucharistie n'ajoute pas quelque chose en haut, mais c'est ce qui donne cet intérieur. Si vous voulez. Oui. Il ne faudrait plus avoir d'Eucharistie officielle. C'est messe du 11 novembre en France. Toutes ces choses, c'est le secret. Oui.
Mais ce que vous venez de découvrir, là, en quoi ça éclaire, par exemple, tous les débats autour de Mgr Lefebvre et de Mgr Nicot Bourget?
Oh ben ça, alors, je ne sais pas, moi je me contenterai de répéter comme l'avait fait très bien Elda Camara. Si Mgr Lefebvre, il date du Concile de Trente, et moi je suis à Vatican IV. Lui est à Vatican III, Elda Camara. Ouais.
Alors vous êtes à Vatican IV.
IV.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut dire Vatican IV?
Oh, c'est, alors là je ne peux pas, c'est la prophétie, je ne suis pas prophète, je ne dis rien.
Et alors quand même, revenons à cette notion de liberté. Au fond, donc, on vient de regarder un peu des étapes de votre travail, ce que vous mettez en œuvre. Ce que vous cherchez à faire, au fond, c'est de nous rapprocher d'un texte authentique pour que les hommes d'aujourd'hui, dans quelque situation qu'ils soient le plus aptes possible à redécouvrir cette parole, à se laisser interroger par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais en quoi, justement, cela est-il pour vous facteur de libération? Qu'est-ce qui vous libère là-dedans?
Je dirais que...
C'est simple le travail scientifique ou si c'est autre chose?
Non, c'est la présence de Jésus-Christ. Le dernier ennemi, pour moi, c'est la mort. À partir du moment où on n'a plus peur de la mort pendant sa vie, je crois que j'aurai peur de la mort quand elle viendra. Mais maintenant, de loin, elle n'existe pas en Jésus-Christ.
Oui, mais c'est comme ça pour tout homme, finalement. Quand on s'amuse, quand on rigole, quand on fait une interview, on ne pense pas à la mort.
Non, non.
Pour vous, c'est peut-être plus que ça.
Plus que ça. Parce que c'est la conviction certaine que, je vous le disais tout à l'heure, que l'amour est plus fort que la mort et que Jésus est vivant et donne sens à mon activité. Sans ça, qu'est-ce que c'est que mon travail? Je peux me donner librement et à fond à quelque chose parce que je sais que ça a un sens. C'est la question du sens de la vie qui est posée. Mais pour moi, le sens vient précisément de cette certitude que l'amour a traversé la mort.
Et ça, vous vivez quand même dans un cabinet. Vous vivez dans...
Oui, ça dépend du degré de foi qu'on a. C'est sûr que je ne m'attendais pas à vivre tout le temps assis à une table ou bien dire je ne peux pas y rester. Mais c'est sûr que c'est dans cette certitude. Mais ma liberté, ce n'est pas tellement le fait d'exister ici. C'est la liberté d'affronter le monde tel qu'il est, de ne pas le craindre, d'avoir jamais peur, d'être là. Parce que le Seigneur est là, qui existe et qui me donne le sens de ma vie.
Est-ce que ça veut dire que vous avez dû vaincre, pour arriver à ça, certaines tendances de votre caractère, une certaine...
Ah ben oui, sûrement, oui. Parce que je l'ai vaincu, je ne sais pas. Vous savez, on reste violent toute sa vie. Mais il y a peut-être... on acquiert des qualités de cœur, je crois, au contact des êtres, et qui compensent la violence innée ou le refus de la méchanceté pour découvrir la beauté des êtres.
Mais ce sens d'émerveillement qui vous habite, quand on arrive ici, vous nous montrez des objets qui vous entourent, des bibelots, des choses qui vous ont été données, ce sens d'émerveillement, il était inné aussi ou...
Ah ça oui, je pense peut-être, oui. C'est pas du tout une... Je suis montagnard de tempérament, j'ai toujours aimé la nature, adhérer au sol, oui. Mais c'est la joie d'exister, si vous voulez, il y a le fait... À partir du moment... Pour moi, l'idéal c'est d'être enfant. Chesterton a une très belle parole, ce que je l'ai dit quelquefois pour ceux qui lisent l'Évangile. Tous les hommes naissent avec du génie, mais la plupart le perdent avec leurs dents de lait. Alors, tout notre travail consiste précisément à redécouvrir cette source naïve, native, qui me permet alors de redécouvrir derrière les mots. Jésus était un enfant. Jésus a parlé d'une façon tellement simple, nature. Comparez-le à Saint Paul. Saint Paul était d'une complication.
Et qu'est-ce que ça veut dire justement d'être un enfant? Parce que ça, c'est une chose, parce qu'un lieu commun aussi, c'est comme
oui,
aimez-vous
je
les uns
dis,
les
ah,
autres,
bah,
n'est-ce
oui,
pas?
j'ai lieu
Parce
commun.
que vous n'êtes quand même pas un enfant, enfin, vous amuser, puis rigoler,
Ah
etc. Ça
non.
veut pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant?
Ah, vous prenez de court, être un enfant. Parce que si je n'étais pas, je pourrais peut-être vous répondre. C'est-à-dire, je veux dire, être un enfant, c'est d'abord avoir une confiance tellement profonde dans un être qui peut tout, qu'on existe, sans se soucier de ce que les autres feront, diront. Les autres ne sont pas méchants. L'enfant n'a pas peur. La tragédie de notre monde, c'est la peur. Être enfant, c'est celui qui, sachant qu'il est entouré par ses parents, n'a pas peur. N'a pas de soucis. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ses chagrins. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ses problèmes. Mais au fond de lui-même, un peu comme dans un lac, il y a les surfaces. Mais au fond, au fond, au fond, il y a une espèce de certitude, de sérénité qui, elle, n'est jamais touchée.
C'est une enfance finalement qui vient après une longue conversion.
Oui, comme dirait saint Augustin, il y a la joie de Pâques et la joie de Noël. Ce n'est pas la joie de Noël, c'est la joie de Pâques.
Père Léon Dufour, je vous remercie.